Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussaou.
Ayant déjà été victime d'une agression, la RDC connaît ses conséquences. Voilà pourquoi elle a voté aux Nations Unies pour la résolution condamnant la guerre en Ukraine. Propos du porte-parole du gouvernement congolais hier dans une conférence de presse. Hausse du prix du carburant et des denrées alimentaires au sud Kivu. La Ligue des consommateurs des services au Congo-Kinshasa interpelle les opérateurs économiques et appelle les services publics à leurs responsabilités. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et notre invité, Eustache Mouanzi, revient sur le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas des PME. Bonjour à tous. D'abord, cette nouvelle, 3 morts et 4 blessés graves, tel est le bilan d'un accident de circulation de 2 remorques aux environs de 1h du matin sur la nationale numéro 1 vers l'arrêt en vrac dans la commune de Mongafula, ici à Kinshasa. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident, selon les témoignages recueillis sur place. Comme vous le savez, la RDC a voté aux Nations Unies pour la résolution condamnant la guerre en Ukraine. Le gouvernement congolais justifie ce choix par le fait qu'ayant déjà été victime d'une agression, qu'elle connaît les conséquences de celle-ci. Propos de Patrick Muyaya, ministre de communication et porte-parole du gouvernement. Il s'est exprimé ainsi hier jeudi à Kinshasa lors de la conférence de presse conjointement animée avec la ministre de la Justice, Rose Mutombo, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wamesso. Patrick Muyaya a ajouté par ailleurs que des dispositions sont prises avec la Pologne pour que les étudiants congolais partis de l'Ukraine à cause de la guerre soient réorientés. Il est dit au micro de Paul Matendo.
Avec nous, République démocratique du Congo, on a déjà connu une agression. Et nous savons ce que cela veut dire. Et donc, la position de la République démocratique du Congo a été exprimée par des votes. Ça vaut mieux que des paroles dites de cette façon. Ensuite, nous sommes préoccupés par la situation du peuple ukrainien de manière générale, parce que lorsque la guerre s'est faite, il y a toujours des victimes collatérales. Et parmi ces victimes, nous avons nos compatriotes qui sont partis étudier là-bas, et c'est une situation qui est suivie de très près. Vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères a échangé avec le point focal des étudiants congolais qui sont là-bas. Il a invité l'ambassadeur de Pologne ici pour voir qu'est-ce que nous pouvons prendre comme mesure pour ceux qui ont réussi à quitter l'Ukraine. Nous espérons que tous ceux qui sont là-bas ont quitté l'Ukraine pour qu'ils soient en mesure d'être ramenés au pays ou pour qu'ils soient en mesure d'être réorientés et éviter le feu de la guerre.
L'Église catholique, par la bouche du nonce apostolique, annonce l'arrivée en RDC du pape François les 2 juillet prochains. D'après le nonce, la synco et le cardinal, cette visite qui ira jusqu'au 5 juillet 2022 s'est veut être une occasion de réconciliation et de raviver l'espérance du peuple congolais en quête de la paix, de la sécurité et du bien-être. Cette annonce s'est faite hier jeudi en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. C'était devant les médias dans la salle de la Caritas à Kinshasa. D'autres détails sur ce voyage du pape avec vous, Billy Von Lutumba.
Devant les évêques des diocèses de la République démocratique du Congo, le nonce apostolique, aux côtés du cardinal Fridolin Ambongo et de Mgr Marcel Outembi, président de la CENCO, affirme que ce voyage s'accomplira à l'unisson entre le pape, le peuple congolais ainsi que ses autorités civiles et ecclésiastiques. Mgr Donatien Chollet explique en quoi cette visite est qualifiée d'une occasion de réconciliation.
Chaque année, le pape dit toujours de prier pour la paix en RDC Congo. On a besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, chacun avec lui-même, avec les autres, à plusieurs dimensions. Et le pape est le symbole de l'unité au niveau universel. Il vient justement renforcer cela.
Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, pas question d'amalgame, sans nul doute, de parler d'une réconciliation entre l'Église et l'État congolais, mais plutôt...
Tout le monde sait à quelle atrocité fait face l'Est du pays, qui sont bien sûr menés par ces forces terroristes. Nous avons aussi des groupes armés qui aussi sévissent sur base de divisions communautaires. Et c'est important que, au niveau de ces populations, nous puissions avoir une réconciliation. C'est pas une réconciliation qu'on peut faire entre l'Église et l'État.
Signalons en effet que le programme tel qu'annoncé prévoit une visite du pape François dans la ville de Goma avant de quitter la RDC.
La visite du pape François à Kinshasa et à Goma du 2 au 5 juillet prochain va intervenir 37 ans après celle du pape Jean-Paul II en 80 et 85 au Congo-Kinshasa, un jour avant l'annonce de cette troisième visite apostolique du chef de l'Église catholique romaine. Le pape François a accordé une audience mercredi à Rome au caucus des députés nationaux catholiques de la RDC. Ils ont échangé notamment sur la problématique de la paix en RDC, la canonisation des bienheureux Anwarite Nengapeta et Isidore Bakanja, ainsi que sur les questions environnementales. On écoute les députés nationaux Gary Sakata, membre de la délégation des parlementaires congolais à Rome. Il est joint par Michel Kifindangoy.
Où nos échanges ont tourné autour de la paix au niveau national, à la suite des guerres qui durent depuis plusieurs années en ce qui concerne notre pays, spécialement à l'est du pays. La guerre également au niveau du monde, vous savez qu'il y a guerre entre la Russie, l'Ukraine ainsi que certains autres pays. En ce qui concerne notre pays particulièrement, parce que c'est pour ça que nous sommes venus, nous avons demandé au Vatican d'assurer la médiation dans le conflit qui nous oppose avec certaines forces négatives afin de mettre fin à cette guerre qui a duré trop longtemps et qui ne permet pas à notre pays de décoller. Alors dans un deuxième temps, il a été question de parler de la canonisation de nos bienheureuses et bienheureux Anwarite Nengapeta, Marie-Clémentine et Isidore Bakanja. Comme vous le savez, ces derniers ont été déjà faits bienheureux, mais la canonisation a trop duré. C'est pour ça, en tant que représentant du peuple, nous sommes venus pour faire un lobbying afin que cette canonisation aboutisse.
Deuxième titre de ce journal, au Sud Kivu, la Ligue des consommateurs des services au Congo-Kinshasa s'inquiète de la hausse des prix des biens sur le marché de Bukavu, des produits de première nécessité et des vivres dont les prix prennent de l'ascenseur depuis quelques jours. La Likoski interpelle les opérateurs économiques et appelle les services publics à leurs responsabilités. Des détails avec Emmanuel Elamejo Kabedi.
C'est depuis quelques jours que les prix des principaux articles ont pris de l'ascenseur sur le marché local de Bukavu. Un sac de sucre de 50 kilos qui coûtait 40 dollars se vend aujourd'hui à 55 dollars américains. Un bidon d'huile de 20 litres qui coûtait 30 dollars coûte à ce jour 45 dollars. Un sac de riz de 25 kilos est passé de 15 à 20 dollars américains. Même les prix des produits vivriers locaux comme le pain, la braise et l'oignon sont en hausse. Le panier de la ménagère est donc en souffrance. La Likoski interpelle ainsi les compatriotes congolais à ne pas confondre la rareté du carburant actuel avec les prix de biens sur le marché. Mizo Kabare Makombe, président de la Likoski.
La Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa alerte sur la flambée vertigineuse des prix sur les marchés de Bukavu. Que cette crise pétrolière ne soit pas une occasion pour hausser de manière unilatérale les prix des différents denrées sur les marchés.
Au gouvernement provincial du Sud Kivu, le ministère de l'économie et finances reconnaît la rareté et la hausse du prix de carburant à la pompe, mais affirme qu'il s'agit d'une simple spéculation pour les prix de biens sur le marché local. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Hausse également des prix des produits manufacturés sur les marchés de Beni. Si les uns parlent des problèmes de l'insécurité sur l'axe Kassindi-Beni dans la partie est du territoire de Beni, d'autres indiquent qu'il s'agit de problèmes de rareté de ces produits sur le marché, car des cargaisons de marchandises seraient bloquées entre Mombasa et la frontière congolaise. Au Nord Kivu, dont les territoires de Massissi, la moitié des villages, soit 15 de la chefferie de Bachalimokoto sur les 25 que compte cette entité, sont actuellement occupés par différents groupes armés, une situation qui préoccupe la société civile de la chefferie. Selon son président, ces groupes commettent beaucoup d'exactions et autres formes de tracasseries contre les civils. D'après Tobi Luakio Okaangu Tobi, ces groupes armés se renforcent en nombre en procédant au nouveau nouveaux recrutements depuis ces trois derniers mois. Il pense que l'imposition de l'autorité de l'État dans cette entité serait une solution. Il est joint par Denis Lukesso.
Depuis que l'armée a dû faire le cessez le feu dans la sécurité de Bachali, vraiment la population est abandonnée d'elle-même. Ceux qui font la loi, c'est toutes armées. Il y a la localité Boussier-Kalongue, la grande partie occupée par les Nyatura Bazungu, la localité Burungu, une partie par les Nyatura Bazungu et une autre partie par les FDLR. Mweso, la grande partie est occupée par les Nyatura Bazungu, Kalembe, les FRDC sont à la route, mais la partie de Bachali occupée par les Nyatura, une autre partie par les MDC, Puira, la localité Boulende, c'est entièrement par les APCLF, Kahira, Luhanga, Nyange, Bibwe, Sode Nyatura, Bazungu. Il y a des taxes qu'il faut payer par ces miliciens, des amendes exorbitantes. Il y a ceux-là qui sont en train d'être arrêtés arbitrairement. Donc, nous vivons vraiment la jungle.
En Ituri, des dizaines de membres des communautés locales, autorités et acteurs de la société civile ont participé mercredi à une séance de vulgarisation du mandat de la MONUSCO à Aveba. C'est une localité située à 75 km sud de Bunia dans les territoires d'Irumu où séjourne une équipe de la section de l'information publique de la mission. Son responsable en Ituri qui a animé cette séance a saisi cette opportunité pour parler des réalisations de la MONUSCO au profit de la population ainsi que des autorités locales. Pour les participants, cette activité permet de les sortir de l'ignorance et de comprendre le rôle de la mission onusienne en RDC et la responsabilité du gouvernement de la RDC dans le rétablissement de la paix en Ituri. Certains parmi eux se sont exprimés au micro d'Isaac Raymond.
Je sais que la population sera sensibilisée et connaître quel est le rôle de la MONUSCO. Ça peut vraiment renforcer cette relation entre la MONUSCO et la population.
Nous allons nous efforcer pour aussi rassurer nos populations de retirer certaines colères qu'ils avaient.
Nous sommes vraiment tombés dans une confusion totale. Nous pensons que la MONUSCO peut directement attaquer quand il y a des menaces qui arrivent. Or, la MONUSCO arrive en appui.
Les gens ont toujours fait des confusions sur la mission de la MONUSCO. Il les rejette souvent parfois des fautes qui ne les incombent pas. Nous venons de comprendre qu'elle doit faire la MONUSCO et qu'elle doit faire aussi également l'État.
Ça nous a beaucoup aidé, ça nous a ouvert les horizons à des choses qu'on ne connaissait pas, surtout à propos des mandats de la MONUSCO au Congo.
L'ignorance du mandat de la MONUSCO par la majorité de la population était à l'origine des nombreux malentendus et incidents, ce qui avait entraîné le développement des sentiments anti-MONUSCO dans la région. À Butembo, des militaires et policiers commis à la garde de la prison centrale de Kangangura ont clôturé hier jeudi une formation d'une semaine sur le self-défense. Il s'agit d'un ensemble d'exercices physiques qui leur ont été appris dans l'objectif de relever leur niveau de défense personnelle en cas d'incident sécuritaire à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. Guy Albert, officier de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, qui a organisé cette séance de renforcement des capacités, explique le bien fondé de cette formation au micro de Sadiki Aboubakar.
L'exploitation sexuelle à la ville de Butembo grandit du jour au lendemain puisqu'il y a l'exploitation sexuelle qui s'est fait à travers le maison des tolérances dans la communauté et à l'école. Actuellement, ça commence à s'observer.
Nous reviendrons sur cet élément sur la formation des policiers militaires plus tard. Mais parlons d'abord de l'affaire séquestration et torture d'un magistrat de Lubumbashi. Quatre agents de l'Agence nationale de renseignement ont été condamnés hier jeudi par le tribunal de grande instance de Lubumbashi, Kamalondo. Le service de sécurité incriminé estime pour sa part que les magistrats ne respectent pas la procédure avant de mettre la main sur un agent. Jean Gandou.
C'est tard dans la nuit de ce jeudi que le verdict est tombé. Sur les cinq agents interpellés, quatre ont été condamnés à 7 ans de servitude pénale principale. Le cinquième a été acquitté parce que non impliqué dans les faits reprochés aux autres. Ils sont accusés d'avoir torturé et enlevé le magistrat qui voulait verbaliser les trois agents du service de renseignement qui venaient d'être arrêtés pour notamment cause de blessures volontaires sur une dame. Le délégué des magistrats du tribunal de grande instance de Lubumbashi, tout en saluant ces condamnations, indique cependant que les magistrats de Lubumbashi ne reprendront pas leurs actions. activité aussi longtemps que les autres qui ont séquestré le même magistrat pour la deuxième fois et dont les mandats d'amener sont déjà lancés ne seront pas déférés devant la justice pour être jugés en procédure de flagrance. L'Agence nationale des renseignements rejette cependant les allégations de torture alléguées par les magistrats tout en fustigeant le non-respect par ce dernier de la procédure avant de mettre la main sur un agent du service de renseignement. À cette préoccupation, les magistrats renseignent qu'en cas de flagrance, on n'a pas besoin d'une quelconque autorisation. Comme on le voit, le bras de fer entre les deux parties continue. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale. Les députés russes ont adopté ce vendredi un texte qui prévoit des lourdes peines, des prisons et des amendes pour toute personne publiant des informations mensongères sur l'armée en pleine invasion de l'Ukraine par les forces de Moscou. Cet amendement adopté en troisième lecture prévoit diverses peines, des prisons pouvant aller jusqu'à 15 ans si des informations mensongères entraînent des conséquences sérieuses pour les forces armées. Un amendement adopté ce vendredi prévoit aussi des sanctions pour les appels à imposer des sanctions à la Russie, rapporte l'AFP.
L'invité.
Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises, PME, est l'invité de ce journal. Eustache Mouanzi revient sur le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADM PME, conçu pour 4 villes. Eustache Mouanzi indique qu'il va s'étendre à 10 autres villes, voire plus cette année. Les discussions vont être entamées dans quelques mois entre le gouvernement et le programme de la Banque mondiale qui appuie ce projet pour identifier ces autres zones et les enveloppes qui seront affectées pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Eustache Mouanzi s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Eustache Mouanzi, bonjour.
Bonjour Monsieur François.
Le projet d'appui au développement de petites et moyennes entreprises, PADM PME, est en marche. Quels sont les contours de ce projet?
Le PADM PME, c'est un projet pilote du gouvernement congolais avec l'appui et l'accompagnement de la Banque mondiale. Ce projet pilote a été conçu et programmé pour 4 villes: Goma, Matadi, Lubumbashi et Kinshasa. Le projet est presque à court, mais nous sommes en pourparlers avec la Banque mondiale pour que le projet PADM PME s'étende sur d'autres villes et que son enveloppe, que le portefeuille de ce projet soit aussi amélioré. Voilà ce que je puis dire à cet instant.
Plusieurs jeunes dans les régions touchées par ce projet se demandent si d'autres provinces seront aussi prises en compte et ça sera quand par exemple?
François, je puis profiter de votre micro pour dire et annoncer et confirmer effectivement que le projet sera étendu à d'autres villes, lesquelles nous serons fixés d'ici là, dans les 2 mois maximum à venir. Nous saurons quelles autres villes vont profiter du projet. Mais il est clair que nous passerons de 4 villes à 10 ou 12 villes. Et le projet, l'enveloppe du projet, va peut-être aussi doublée ou triplée. Ça, c'est une réalité. Nous attendons juste d'harmoniser les vues avec la Banque mondiale et c'est sous peu.
Alors, dans la faisabilité, comment ça va se passer dans les provinces? Comment les jeunes seront sélectionnés pour être impliqués dans le projet?
Il faut d'abord qu'on soit jeune entrepreneur, qu'on ait sa start-up ou sa micro-entreprise formalisée et qu'on ait soit suffisamment informé comment on prépare un projet bancable. C'est le rôle notamment de l'ANADEC hier au PEC aujourd'hui. Donc, non seulement les jeunes, les mamans, les PME à se préparer à ce projet qui arrive. Il ne sera pas très différent du PADM PME hier, mais on va se servir du modèle du PADM PME. Vous vous souviendrez, vous vous rappellerez qu'il y a quelques temps, j'ai eu à faire le tour de ces 4 villes que j'ai citées tout à l'heure, Lubumbashi, Goma, Matadi et Kinshasa, pour primer des PME et des jeunes qui avaient reçu au concours des plans d'affaires. Donc leur business plan, ils ont concouru et ceux-là qui avaient gagné, il y en a qui ont obtenu des subventions de 50 à 150 000 dollars. Des centaines de PME, près de 425 PME, des jeunes, plus de 1000 jeunes ont reçu des subventions qui ont varié entre 8 et 22 000 dollars dans ces 4 villes-là. Donc on va rester plus ou moins sur le même modèle que le projet pilote, mais sûrement qu'il y aura quelques composantes ou quelques aménagements à venir et vous serez informés dans les semaines et dans les mois à venir.
Alors qu'est-ce qui va être fait pour que les choses soient tellement visibles sur terrain que l'on sente qu'il y a de l'impact dans la réalisation de ce projet sur terrain dans certaines provinces et surtout le nombre de jeunes qui vont être touchés par ce projet?
Non, je pense qu'il faut prendre son mal en patience. c'est dans les semaines qui suivent, dès que nous aurons fini le plaidoyer avec le partenaire, quand nous disons nous le gouvernement, le plaidoyer avec la Banque mondiale, nous serons fixés sur toutes les différentes composantes de du nouveau projet. Mais comme j'ai dit, il ne sera pas très loin du pas d'un PME comme premier projet. Donc nous accompagnons les femmes, les jeunes entrepreneurs, les start-up et les PME pour les aider à développer leur projet, leur business.
Par rapport à ce projet, qu'est-ce que vous allez demander aux jeunes aujourd'hui? C'est vrai qu'ils attendent beaucoup du gouvernement.
Le message, il est clair. Il faut que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, nous connaissons leur sens inventif, leur esprit entrepreneurial, qu'ils fassent confiance au gouvernement, que ce soit le gouvernement provincial au niveau du Kasaï central, ou que ce soit parce que Radio Okapi, c'est une radio qui est nationale, au niveau de tous les gouvernements provinciaux, au niveau du gouvernement central, qu'ils nous fassent confiance. Le gouvernement a mission de promouvoir leur esprit entrepreneurial, leur business. Je reste convaincu que dans les semaines qui suivent, par rapport de manière précise à ce projet, avec l'appui, le partenariat de la Banque mondiale, nous apporterons des solutions qui puissent permettre à ce que leur projet, leur business puissent évoluer.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
Je vous en prie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Pierrot et la Mégie et mis en onde par Dieudonné Nyangassa. Je suis Jocelyne Moussaou. Merci de nous avoir suivis.